Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons parler création contemporaine dans le domaine magistral de l'opéra. Peut-on encore écrire un opéra aujourd'hui? Oui, répond sans hésiter le compositeur Laurent Petit-Girard, puisqu'il l'a fait avec Elephant Man en 2002. Peut-on montrer cette création au public dans les meilleures conditions? C'est plus compliqué, comme le montre la saga de son opéra Gourou, qui attend toujours d'être donnée en France. Nous allons aborder ces deux aspects dans notre conversation. Je rappelle que Laurent Petit-Girard est secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que représente ce genre de l'opéra pour un compositeur? Est-ce que ce ne serait pas un peu comme une cathédrale pour un architecte?
La comparaison est vraiment intéressante parce que vous vous rendez compte que finalement, il y a deux catégories de compositeurs. Enfin, il y a d'abord les génies et les autres, mais ceux qui ont du talent ou ceux qu'on n'aurait pas. Mais malgré tout, qu'on le veuille ou non, il y a des compositeurs qui ont écrit un opéra et des compositeurs qui n'ont pas écrit d'opéra. Debussy a écrit Péléas, Ravel, oui, a écrit L'heure espagnole, L'enfant et les sortilèges, mais ce sont presque des mini-opéras. Hein. Mais vous avez des compositeurs qui sont des géants et qui n'ont pas écrit d'opéra. Et c'est assez curieux, on a un manque. On aimerait un opéra de Brahms, ma connaissance, je n'en vois, alors qu'il y a de telles belles œuvres pour la voix, pour le lead. Alors peut-être qu'il va y avoir à l'écoute un musicologue qui va dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce secrétaire perpétuel qui ne sait pas qu'il y a un opéra de Brahms qui n'a jamais été voué ?» Mais en tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas. Et je veux dire, un compositeur important, qui n'est pas prof de ma sensibilité, mais que je respecte comme Pierre Boulez, qui a été un personnage majeur dans une musique très d'avant-garde du XXe siècle, n'a pas écrit d'opéra.
Vous avez attendu avant d'écrire votre premier opéra, vous vouliez être prêt, vous aviez besoin d'une certaine audace, de maturité peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé?
Vous savez, c'est un art total. C'est un art total. Vous avez tout d'un coup... D'abord, il faut comprendre que le compositeur est un homme très solitaire, finalement. Moi, c'est quelque chose que j'ai brisé en ayant une carrière parallèle de chef d'orchestre, ce qui fait qu'elle, qui au contraire est une carrière de contact. Mais ça sous-entend la collaboration avec un librettiste, de choisir vraiment un sujet. Il faut comprendre qu'un opéra, bon, il y a des gens qui peuvent vouloir aller très vite, etc., mais en gros, c'est à peu près 3 ans de travail. Donc c'est de longue haleine. C'est en plus quelque chose qui, je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, une commande du ministère pour un opéra, ça doit être 30 000 euros pour 3 ans de travail. Et en plus, il faut en donner un bout à votre librettiste parce que les librettistes ne sont pas reconnus par le ministère de la Culture au niveau des commandes. Donc c'est assez aberrant. Donc j'imagine que quand l'Opéra Bastille fait des demandes, ça va plus loin. Vous avez cette confusion qui fait que, précisément comme écrire un opéra, c'est une forme de statut, vous avez des compositeurs dont le langage n'est absolument pas fait pour écrire de l'opéra. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas des bons compositeurs, mais qu'on parle, par exemple, qu'ils vont avoir un langage extrêmement brisé qui ne correspond pas à la voix humaine, mais qui vont écrire quand même un opéra parce que c'est un statut, parce que... Voilà. Et puis, alors à ce moment-là, il y a le deuxième point, c'est qu'on va vouloir être très intelligent au niveau du livret. Il faut reconnaître que dans le passé, un certain nombre des livrets mythologiques ou autres étaient quand même relativement peu intéressants. Moi, j'ai toujours eu envie vraiment de m'intéresser presque à des sujets de société. Joseph Merrick dit Elephant Man, bien sûr, ça traite de cette histoire absolument incroyable, mais vu par le prisme de ses écrits à lui, de sa biographie, et non pas de celle du, comme dans le film, très beau film de Lynch, de celle du docteur Trevis qui se donnait le beau rôle. Et dans lequel on voit avant tout l'exclusion. Et c'est ça qui était formidable. Dans Elephant Man, qui commençait avec le monstre qui était dans... donc le showman, qui d'ailleurs dans la vérité était un homme qui aimait beaucoup Elephant Man et qui partageait la recette avec lui, parce que Joseph Merrick voulait travailler, il voulait pas être... Et dans le film, on en fait un ivrogne, c'est pas du tout ça. Et ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est qu'au début, au début de l'opéra, on le voit... on a fait avec Eric Non, auquel j'ai demandé de faire le livret, il y avait cette idée que tout était à l'envers, c'est-à-dire que le public qui voyait le monstre, c'était le cœur sur scène. Et le spectateur, lui, ne voyait que de dos ou derrière la toile. Et puis ensuite, au deuxième acte, il arrive, puisqu'à la fin du premier acte, ce qui s'est passé dans la vraie histoire, c'est qu'il a été... le docteur Trévis a fait fermer le show, qui était une horreur, ces freak shows, quelque part. Il est parti en Belgique, où là, c'était autorisé. Il a été escroqué par une sorte d'impresario suisse et il est revenu avec pratiquement plus rien, sauf la carte de visite du docteur Trévis dans une poche. Et la scène qu'on voit est authentique dans le film, où il arrive à la gare et on le récupère. Quand il arrive à l'hôpital... Là, on va le voir dans mon opéra, on le voit, ce qui est assez fort. En plus, moi, j'ai souhaité que le rôle d'Elephant Man soit confié à une contralto, parce que c'était à ce moment-là une voix de femme grave, c'était très étrange. C'est Nathalie Stutzman qui l'a enregistré. Après, c'est Yana Sikorova qui l'a chanté sur scène, et c'était fort. Bon, puis après, à la fin, il va mourir, etc. Et donc, dans l'idée, si vous voulez, il y avait de se dire qu'il fallait faire aller le public de presque une forme de voyeurisme. On veut voir le monstre. À une forme de compassion devant ses douleurs, et à la fin, à une forme d'identification, quand il dit, c'était une très belle phrase d'Eric Non, il dit « Est-ce que je serai guéri lorsque je me présenterai devant toi, Seigneur ?» C'est-à-dire, autrement dit, il y avait ce chemin du voyeurisme à la compassion, puis à l'identification que devait faire le public. Donc ça, c'est un vrai sujet, un sujet fantastique. Et puis, un sujet comme Gourou, mon deuxième opéra, qui est sur la manipulation mentale avec un suicide collectif dans une secte. Comme
un sujet d'actualité.
Complètement, et qui est un sujet fort. Et au tout début, avant Elephant Man, j'avais pensé écrire sur Dorian Gray, qui est un livre qui m'avait fasciné quand j'avais 17 ans, 16 ans. Et quand j'ai relu le livre, je me suis rendu compte que, bien sûr, il y a l'idée du double qui ne bouge pas, qui était formidable, puisque je cherchais un sujet double comme ça. Mais qu'au fond, l'essentiel de Dorian Gray, c'était quand même la difficulté pour les homosexuels dans l'Angleterre victorienne. Et ça, c'est un sujet fort, mais ce n'est pas un sujet qui m'intéressait à traiter, qui a été d'ailleurs traité par deux autres compositeurs d'opéra. Et puis donc, si vous voulez, c'était, j'ai senti cette nécessité d'être vraiment sur des sujets forts, impliqués et dans lesquels je suis impliqué. Je ne peux pas passer 3 ans de ma vie pour tout d'un coup respecter le fantasme d'un directeur d'opéra qui, puisqu'il n'est pas lui-même créateur, ne va avoir qu'une idée, c'est monter un truc sur une idée plus ou moins intéressante et puis d'aller choisir lui-même le librettiste et d'aller choisir lui-même le compositeur et de faire travailler des gens ensemble qui ne sont pas forcément la bonne équipe. J'ai beaucoup d'admiration pour Robert Badinter, mais je pense que ce n'est pas un librettiste d'opéra et qu'il n'a pas rendu service à Thierry Esquèche, que je considère comme un compositeur majeur. Et on voit trop souvent des états d'esprit, tel directeur d'opéra qui m'expliquait que lui, ce qu'il veut, c'est qu'on mette des pièces de Coltès, bon, ou l'ancien directeur de l'Opéra de Paris, le dernier avant l'actuel, qui estimait qu'il fallait commander des opéras sur des chefs-d'œuvre de la littérature française, et ce qui fait que Marc-André d'Albavy vient de se taper le soulier de satin. C'est un formidable musicien, donc il va probablement en avoir quelque chose, faire quelque chose. On ne me fera pas croire que c'était l'idée première de Marc-André d'Albavy de faire le soulier de satin. Et il y a un moment donné, ces directeurs d'opéra qui veulent à tout prix faire leur empreinte, qui ne veulent pas comprendre que pour un compositeur, c'est un engagement de plusieurs années, ça doit sortir de ses tripes, ça doit être une histoire qui le motive profondément. Alors vous êtes dans le problème que quand vous avez vraiment pensé à quelque chose et que quand vous arrivez avec un projet qui est presque fait ou totalement fait, alors ça ne leur plaît pas du tout, directeur d'opéra. Ils ne veulent pas vous entendre. Hein. Et j'ai nettement vu ça avec Elephant Man, qui devait se faire à l'Opéra Comique, Mais le directeur à l'époque de l'Opéra Comique, j'avais réussi à avoir un soutien de France Télévisions, du cher Xavier Gouillot-Beauchamp. Je me suis rendu compte qu'il allait utiliser l'argent de France Télévisions pour sa mise en scène de Péléas et qu'il me refilait toute l'équipe de chanteurs B qui n'était pas du tout du niveau pour chanter ça. Il y a une coloratour qui monte au contre-sol, ce qui est extrêmement difficile. Il y a une voix de contralto et vous n'avez pas de contralto dans une troupe, ça n'arrive jamais. Et donc, finalement, à cause de ça, ça ne s'est pas fait. Et j'avais terminé l'œuvre en 1998. Et finalement, on a pu la monter en 2002 à Prague.
Laissez-moi seul. S'il vous plaît, laissez-moi seul. Ne me regardez pas.
Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Ben, je l'ai enregistré. Je l'ai enregistré, évidemment, à mes frais, c'est-à-dire que je ne suis pas un homme riche, mais j'ai mis un emprunt sur 10 ans, parce qu'un enregistrement comme ça, ça coûte 250 000 euros. Le disque a eu tous les éloges qu'on veut, bravo, merci. Je l'ai envoyé à 40 directeurs d'opéra, dont pas un n'a simplement répondu en recevant un disque qui était primé, qui était choc de classica, qui avait tout, etc. Et finalement, c'est l'opéra de Prague qui a réagi. Et qu'il a monté. Il se trouve qu'au même moment, il y avait le directeur de l'Opéra de Nice qui faisait une mise en scène à Prague. Donc ça l'a intéressé et il y a eu, après la création à Prague, on a fait une création française à Nice. Et puis, 3 ans après, c'est l'Opéra de Minneapolis qui m'a appelé et qui l'a monté dans une autre production en français aux États-Unis. Tout ça, c'était quand même rare que ça arrive. Eh bien, voyez-vous, une fois que c'est arrivé, je me suis dit, ça y est, j'ai fait mes preuves comme compositeur d'opéra. Le prochain sujet, ce sera plus facile. Eh bien, Gourou, ça a mis 10 ans. 10 ans à ce que je puisse... Pareil, j'ai été obligé de l'enregistrer. Pareil, le disque a reçu des critiques absolument formidables. Et puis, c'était une commande de l'opéra de Nice, au départ, théoriquement, qui avait demandé au ministère. Et il y a eu une espèce de saga avec 5-6 directeurs successifs qui n'ont respecté la parole ni de l'un ni de l'autre. La ville de Nice s'est très mal comportée, mais je n'allais pas leur faire un procès parce que je n'ai pas de temps à perdre. Et finalement, il aura fallu 10 ans pour que j'arrive à faire monter cette œuvre en Pologne. Et il y a un moment donné où, vous savez, je regarde ma carte d'identité, il y a écrit compositeur français, et je me méfie beaucoup de ceux qui se lamentent en disant « nul n'est prophète en son pays ». Ce n'est pas l'idée. Mais l'idée, pour moi, elle est plus que j'ai une façon d'écrire qui est proche des orchestres français, de la couleur. J'adore les bois, j'adore l'écriture, la façon dont les musiciens français comprennent cette musique. Quand je dirige Daphnis et Chloé ou le produit l'après-midi d'un faune, c'est jamais aussi beau que quand je le fais avec des orchestres français. Et donc, quelque part, moi, j'orchestre pour ces couleurs-là. Et je suis toujours surpris d'être obligé d'aller jouer...
Ce n'est pas elle que vous touchez.
Voilà, c'est pas cela. Et le tout, pas à cause des musiciens. J'ai des rapports avec les musiciens absolument formidables, mais le petit monde paramusical, comme ça, quand en plus vous avez eu le malheur dans ce pays de prendre, je le reconnais, assez fermement position contre certaines oukases de Pierre Boulez et des gens autour, alors vous êtes une sorte de marqué au fer rouge comme ça. Si en plus vous avez eu le malheur, oh audace, de faire quelques musiques de films dans votre vie, alors là vous êtes vraiment l'infâme individu commercial. Et c'est un peu fatigant parce que moi ce qui m'intéresse avant tout c'est d'écrire des opéras. J'avais pensé écrire un troisième opéra sur Houdini, que je trouve un personnage extraordinaire. Mais là c'est vraiment trop lourd parce qu'il faut recréer des scènes... des tours de magie sur scène et là on arrive sur des nécessités de choses incroyables, mais actuellement je travaille sur un opéra, sur un sujet que je trouve magnifique,
qui est
tiré d'un film qui s'appelle L'Apparition, qui est un film de Xavier Giannoli, qui est un formidable metteur en scène, et c'est un film avec Vincent Lindon et qui raconte l'histoire d'une petite ville de province en France qui est complètement bouleversée parce qu'une jeune femme explique qu'elle a vu la Vierge. Et L'absurde l'envoie. Donc une jeune femme qui explique qu'elle a vu la Vierge. Et cette jeune femme, à aucun moment, ne se pose le problème de savoir si c'est vrai ou pas. Ce n'est pas ça le sujet du film. Le sujet du film, c'est tout ce que ça bouleverse. Et dans les rapports humains avec un enquêteur qui n'est pas catholique et qui essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est un formidable sujet d'opéra. En plus, j'aimerais bien écrire un opéra avec un orchestre un peu moins important que ce que j'ai fait, avec plus un orchestre d'une quarantaine de musiciens, un petit chœur, parce que mes deux opéras, c'est un... Vous voyez, c'est une des très grosses formations. Il y a 80 musiciens dans la fosse et c'est toujours très compliqué à monter. Mais c'est vrai que ce qui est dangereux, c'est que vous avez le désir, vous avez l'énergie, mais qu'il y a un moment donné où tout ça peut s'émousser à force de vraiment de refus imbéciles, quoi. Je suis toujours surpris simplement du manque de courtoisie. Vous savez, j'ai été pendant une vingtaine d'années directeur musical d'orchestre, soit l'Orchestre symphonique français ou l'Orchestre Colonne. Étant donné que j'avais dit depuis le début que je voulais mettre une œuvre de musique contemporaine dans chaque concert, et que j'ai programmé des compositeurs dont certains étaient très loin de moi, parce que je ne voulais absolument pas avoir le même ostracisme imbécile qu'une certaine avant-garde. Quand vous êtes connu pour programmer une œuvre de musique contemporaine dans chaque concert, vous allez programmer une douzaine, une quinzaine de concerts dans l'année, vous allez recevoir 100 demandes de compositeurs. Vous ne pouvez pas programmer tout le monde, c'est absolument impossible.
Il faut choisir.
Et l'Orchestre Colonne, ce n'était pas une grosse structure. Eh bien, je me suis fait un devoir de répondre une lettre à chaque compositeur qui me sollicitait, parce que je savais ce que c'est. Et là, vraiment, quand j'ai vu que j'écrivais à des directeurs d'opéra en leur envoyant, non pas un vague projet, non pas comme un jeune, non pas comme un impresario qui essaye de placer une petite soprano, je leur envoyais une œuvre de 2h30 avec la partition d'orchestre. Ils ne savent pas lire la musique, ceci dit. Avec la réduction sans piano, avec un livret fait par d'excellents librettistes. Parce que je trouve que c'est dangereux pour un compositeur d'écrire lui-même le livret de ses opéras. On n'est pas toujours... on n'a pas forcément une plume. On peut avoir de belles idées, des idées fortes, mais moi, j'écris vraiment le monstre de mes opéras. C'est-à-dire, je sais exactement, d'un point de vue dramatique, ce n'est pas un librettiste qui peut me dire quoi faire. C'est moi. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas pu donner suite à des propositions de livret tout fait qu'on m'avait fait, parce que je suis vraiment trop impliqué. Mais ensuite, pour trouver les mots, la qualité des mots, les mots qui vont avoir leur rythme, tout ça, c'est très important d'avoir un vrai librettiste, d'avoir quelqu'un de grand niveau. Mais donc, il y avait des gens comme Eric Nonne ou comme Xavier Morel qui a fait le livret de Gourou. Donc, quand on envoie ça, avec en plus... un enregistrement qu'à chaque fois j'avais financé avec des voix extraordinaires comme Nathalie Soutzmann, Hubert Classens, Sophie Koch, enfin Nicolas Rivin, qui en avait un plateau formidable, ou bien l'orchestre de Monte Carlo pour Elephant Man, ou bien qui est un excellent orchestre, aussi le très très bon orchestre Hungarian Symphony avec lequel je fais tous mes disques depuis un moment à Budapest, et que vous avez ces disques qui sont sortis, qui ont eu en plus un écho fort, qu'en plus il y a des gens passionnés, il y a même du mécénat derrière tout ce que vous voulez, et que vous écrivez en envoyant tout ça, et que la personne qui reçoit ça, dont c'est le métier, qui est un patron qui gagne très bien sa vie en totale sécurité à la tête d'un opéra, ne prend même pas la peine de vous répondre, ne serait-ce que pour vous dire « Cher monsieur ou cher maître, j'ai bien reçu malheureusement, quel que soit l'intérêt de votre etc. » une aide. Mais même pas le minimum de courtoisie. Mmh. C'est-à-dire que le monde de l'opéra est un monde de grossiers personnages qui méritent un coup de pied au derrière.
Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une problématique récurrente dans l'opéra qui demande des moyens financiers très conséquents et que du coup l'engagement fait peur peut-être au directeur ?
Non, je crois que y a d'autres problèmes. Bon, il y a le premier problème, c'est que beaucoup d'entre eux ne sont pas curieux. Ça ne les intéresse pas tellement, la musique contemporaine. Et ce qui fait que, si à un moment donné, ils doivent faire un opéra de musique contemporaine, alors ils veulent avoir la carte. Ils veulent avoir le label contemporain de chez contemporain. Ils veulent pouvoir dire, ah, regardez, j'ai été chercher celui-là. Puis alors, vous voyez, le livret, oh la vache, rien qu'à lire le livret, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Or, vous savez, toute la problématique entre un texte écrit d'abord, chaque fois qu'on nous envoie des livrets tout près, les librettistes ne se rendent pas compte. Il y a 10 fois trop, c'est beaucoup trop long, il y a beaucoup trop de mots. Hein. Ce n'est pas too many notes comme chez Mozart, c'est too many words. Donc il faut à ce moment-là...
Qu'est-ce que c'est un bon livret ?
Un bon livret, c'est d'abord un livret dont la dynamique dramatique a été pensée par le compositeur, parce que c'est quand même lui qui va emmener tout ça au bout. Hein. Et c'est ensuite un livret dont la compréhension va rester. Vous savez, il y a cette chose très étonnante, c'est qu'un texte, lorsqu'arrive la musique, il va perdre de l'intelligibilité, mais il va gagner du sens. Et donc, il faut trouver entre ces deux paramètres le bon équilibre. Et en cela, un bon livret, c'est un livret qui saura être incisif, percutant, pas avec des répliques interminables, qui saura intégrer les espaces de respiration. Là, à ce niveau-là, je dois vous dire que probablement, d'avoir fait beaucoup de musique de film, ça m'a servi d'un point de vue de la continuité dramatique. Et je vois même entre mon premier opéra et mon second opéra, j'ai prévu beaucoup plus de moments sans texte, de moments laissant plus de liberté à la mise en scène dans Guru que dans Elephant Man. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors moi, évidemment, j'ai un autre problème, c'est que, si vous voulez, au bout d'un moment, l'opéra... J'ai choisi l'histoire, j'en ai fait la construction dramatique, même si, par exemple, Xavier Morel, évidemment, a amené beaucoup d'idées, hein, Eric Nunn aussi. Ensuite, je le compose. C'est là aussi, on ne se rend pas tout à fait compte. Hein. Un livret d'opéra, c'est 3 mois. Un opéra, c'est 3 ans. Ce n'est pas le même travail non plus. Et puis, évidemment, on orchestre tout soi-même, on fait tout. Quand je suis arrivé au bout de ça... il faut se battre pour réussir à le faire exister. J'en ai eu tellement assez de la façon dont se comportent certains éditeurs de musique, j'ai même édité moi-même le second. Donc même ça, la fabrication des partitions, c'est revenu sur moi. Ensuite, il y a cette espèce de folie où pendant 10 ans, on est baladé d'un coin à un autre, de gens qui ne répondent pas de tout. Donc je me dis, il faut que l'œuvre existe, donc je l'enregistre. Donc, je venais juste de finir de payer les dettes d'Elephant Man quand j'ai remis la même chose. Et le banquier, il était mort de rire. Il m'a dit, vous avez créé un nouvel opéra? Je lui ai dit, oui, comment avez-vous deviné? Eh bien...
On ne doit pas souvent en avoir des clients
non,
comme vous.
Non. Et puis, à partir de ce moment-là, je vais au bout. C'est-à-dire, je le dirige, hein, comme chef d'orchestre. Donc, au bout d'un moment, moi, j'ai une continuité. J'emmène mon bébé au bout. Hein, et ça, pour moi, c'est essentiel. Après, Elephant Man à Minneapolis, ça a été dirigé par Anthony Walker, qui est un très bon chef, et ce n'est pas moi qui l'ai dirigé. Mais la création, c'est important, parce que là, je veux emmener la fosse comme ça. Mais si vous voulez, c'est un monde qui est tellement passionnant, c'est tellement extraordinaire le rapport entre le mot, le rythme interne des mots, comment vous allez vous laisser impressionner par le mot. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est quand vous commencez à écrire des œuvres aussi longues, opéra ou autre d'ailleurs, parce que là, je viens de terminer un ballet, donc je dirais un mot sur le Si Yeuki, qui est le Voyage en Occident, qui est le Roi des Singes, qui est un livre chinois extraordinaire et qui est un des 4 livres essentiels de la Chine, du 15e siècle. Eh bien, quand vous écrivez des œuvres comme ça, par exemple un opéra, comme Elephant Man qui durait 2h30, ou Guru qui dure 2h, il y a... Vous avancez, vous dites, mon Dieu, mais j'en finirai jamais. Puis il y a un moment donné où le poids de tout ce que vous avez écrit vous pousse. C'est-à-dire, c'est exactement comme vous êtes la locomotive qui emmène le train, il y a une côte, puis on arrive en haut de la côte, et puis de l'autre côté, ça descend. Et là, à ce moment-là, vous avez tout ce que vous avez écrit qui vous aide et qui vous emmène. Et pour moi, c'est une forme d'art évidemment total qui, en plus, présente, qui demande pour le compositeur de quand même de bien penser les espaces qu'il va laisser à la mise en scène, de la même façon que ça ne me viendrait pas à l'idée de vouloir faire la mise en scène moi-même. Puis moi, j'ai une chance extraordinaire. J'ai un fils qui est un merveilleux metteur en scène de théâtre. Mais donc, on a parlé de plein de choses. Et c'est un écrivain aussi. D'ailleurs, je compte bien, pour tout vous avouer, réussir à monter l'apparition avec livret et mise en scène de Tristan Petit-Gérard. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir. Puis en plus, il est auréolé de Molière, de choses comme ça. Donc, c'est pas papa qui essaiera de placer son fiston. C'est presque fiston qui va aider papa, voyez-vous. Bon, et ça, pour moi, c'est un des éléments essentiels dans la composition. C'est de visionner, c'est d'avoir la vision de ce qu'il faut. Vous avez également tout le problème de la géométrie sonore. Vous avez des opéras magnifiques comme le Dialogue des Carmélites où vraiment Poulenc a sur-orchestré et qui pose un vrai problème de balance. Et ça, je fais très attention. Et puis j'ai une autre obsession, pour tout vous avouer, je ne supporte pas à l'opéra de ne pas comprendre. C'est pour ça que j'adore, que je suis beaucoup plus à l'aise avec L'heure espagnole de Ravel ou L'enfant et les sortilèges qu'avec Péléas et Mélisande, parce que je comprends tout chez Ravel. Dans la prosodie de Ravel, je comprends. Celle de Debussy, elle est plus hermétique pour moi. Donc, j'ai une façon de composer qui va mettre une syllabe par note. Je ne vais jamais écrire « passe-moi le sel ». Je vais écrire « passe-moi le sel ». Bon. Ce qui veut dire que pour un chanteur, par contre, pour réussir au milieu de ça à trouver les lignes, hein, et j'en avais beaucoup parlé avec Nathalie Stutzmann, puisque après avoir fait enregistrer le Elephant Man, quelques années après, j'ai écrit un cycle de mélodies autour du Fou d'Elsa d'Aragon. Et elle m'avait parlé de ça. Elle me dit, mais alors quand est-ce que tu vas me faire des grandes tenues, etc. Je ne lui ai absolument pas fait ça, bien sûr. J'ai continué une syllabe par note. Mais à un moment donné, je lui ai mis « Oh !» Et ça l'a fait beaucoup rire. Mais donc, c'est, vous savez, c'est quelque chose de fascinant, mais encore plus que pour un concerto, un poème symphonique, tout ce que vous voulez. Un opéra, c'est votre bébé, quoi. Vous l'avez porté, vous y avez pensé pendant un an ou deux ans, vous avez mis trois ans à l'écrire. Après, vous savez, c'est très impressionnant parce que vous avez forcément un décalage, même si c'est donné relativement vite, que ça va être donné un an ou deux ans après que vous ayez terminé. Entre le moment où vous avez composé le premier acte et le moment où vous allez l'entendre, il y a au moins 3, 4, 5 ans qui se sont passés.
Il s'est écoulé.
Votre langage peut avoir évolué.
Années.
Donc c'est pour moi un opéra. C'est drôle, vous parliez de la cathédrale tout à l'heure. Là, évidemment, la construction d'une cathédrale, c'est immense. Mais je me rappelle d'un ami architecte avec lequel je parlais qui construisait un hôpital. Et il construisait cet hôpital au moment où je commençais à composer Elephant Man. Et on s'est dit, ben, on va avoir fini ensemble, finalement. Il m'a dit, il faudrait presque pouvoir
inaugurer,
faire les 10 choses et faire la première de Elephant Man pour inaugurer l'hôpital. Surtout que, bon, il se trouve qu'il y avait... Techniquement, ce n'était pas possible, mais l'idée nous avait effleurés.
Alors, dans un opéra, il y a souvent des morceaux de bravoure et des moments où l'intensité dramatique est un peu à son sommet. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce moment, par exemple, dans Gourou, pour vous, qu'est-ce qui se passe quand l'émotion est la plus forte?
Alors, c'est bien. Je commencerai déjà par Elephant Man. Vous avez dans Elephant Man plusieurs choses. Vous avez à un moment donné, au début du deuxième acte, c'est la scène 3 du deuxième acte, Elephant Man arrive dans l'hôpital et il est à l'hôpital, plutôt, il a peur et arrivent tous les malades pour le soutenir. On a appelé ça la prière des malades. Et on a réfléchi sur... avec Eric Non, on pensait, il pourrait dire le règlement de l'hôpital, mais c'était pas bien. Finalement, j'ai trouvé ensemble un mélange de deux prières des malades. Et donc l'idée, c'est que tout ce chœur arrive, en fait, pour soutenir Elephant Man, et lui chante la prière des malades. Ça dure 3 minutes, 4 minutes. Et là, volontairement, par rapport à un opéra qui était très dur comme ça, je me suis dit, je vais faire une sorte de chorale un peu. Et c'est assez foréen, si vous voulez. Mmh. Ça m'a joué un tour. C'est que, par exemple, Alain Duhaut, qui aimait beaucoup ça, qu'il passait sur RTL, il y avait à chaque fois 50, 60 appels de gens, mais de gens qui disaient que tout l'opéra allait être comme ça. Alors qu'en fait, cet opéra était... Bon, ça, c'est un moment. Il y a un autre moment, qui est... alors que c'est un morceau de bravoure, vous ne croyez pas si bien dire, là, dans Elephant Man, c'est au début du quête du dernier acte, quand arrive la coloratoure, qui était en fait, dans la vérité, c'est une actrice qui a voulu se marier avec Elephant Man pour faire un coup médiatique. Donc, en fait, le vrai monstre, c'est elle. Et donc arrive la diva, et là j'ai fait un... D'ailleurs, c'est une pièce qui maintenant, souvent, des coloratours chantent quand elles vont passer une audition auprès d'un directeur d'opéra, parce que ça monte au contre-sol, ce qui est très, très, très haut pour nos auditeurs. C'est 4 lignes supplémentaires au-dessus de la clé de sol. Hein. Et ça, c'est quelque chose, alors, de... Ça a été de morceaux de bravoure. Évidemment, il y a la fin, il y a la mort d'Elephant Man qui a quelque chose de tragique. Dans Guru, évidemment, les moments extrêmement forts, c'est les moments entre... J'ai écrit dans Guru, j'ai eu cette idée au fond de dire on va avoir tous ces gens qui sont complètement lobotomisés par le gourou. Ils sont sous emprise. Donc l'emprise, c'est le chant. Et au milieu, on va mettre une personne...
Qui envoûte, d'une certaine façon.
Voilà. Et on va mettre une personne qui résiste. Et donc, la personne qui résiste, c'est la seule qui ne chante pas, elle parle, puisqu'elle résiste. Et elle parle, mais, puisque c'est dans un opéra que je voulais tout structurer, elle parle, mais avec une partition écrite. Hein ? C'est-à-dire que rythmiquement, tout est écrit. Et qu'à aucun moment, elle va pouvoir... parler comme elle le veut. Hein? Et alors, et donc elle va dire « Et alors, qu'est-ce que ça change ?» Comme ça, elle va pas pouvoir dire « Et alors, qu'est-ce que ça change ?» C'est pas possible. Donc, ça veut dire que c'est écrit comme une partition de chanteur. Et que c'est donc extrêmement difficile pour à la fois jouer et avoir ça. C'est un peu le principe qu'il y a, mais pas toujours, mais qu'il y a dans Jeanne au bûcher d'Arthur Honegger. Or, Jeanne au bûcher, je l'ai fait en 90, mais j'avais déjà épousé Jeanne, si je puis dire, parce que je l'ai fait avec Sonia Petrovna, cette actrice absolument sublime, qui est rentrée dans ma vie en 1984, ou moi dans la sienne, pour ne plus jamais en sortir. Et bien évidemment, quand j'ai composé Guru, je savais que c'était pour Sonia. Et donc il y a là, évidemment, les scènes entre les deux personnages qui sont très fortes, elle qui parle, lui qui chante, hein, très violent. Et d'ailleurs, à la fin, quand il essaye de lui faire boire le poison et qu'elle retourne le truc pour que ce soit lui qui boive le poison, il lui dit toi le premier, et c'est le seul moment où elle chante. Elle va dire toi le premier et moi ensuite. Et donc, du coup, comme elle chante, il a l'impression d'avoir convaincu, hein, parce que c'était des bagarres. Il y a des moments, il y a la compagne de Guru, c'est au début du troisième acte. La compagne de Guru est tout d'un coup, elle a laissé mourir son enfant, puisque le soi-disant génial, il y a toujours un conseiller scientifique chez ces escrocs qui nourrissait tout l'enfant à l'eau de mer. Donc évidemment, l'enfant de Guru est mort. Elle a laissé mourir son enfant. Et donc, elle va se suicider avant le suicide collectif, puisque c'est sa seule façon de résister, hein, au Guru. Et là, c'est une scène qui est vraiment poignante. J'ai eu une chanteuse... absolument Bodzena Bunjiska qui a fait ça en Pologne, c'était absolument bouleversant. Karen Wierba qui a fait le disque là aussi a très très bien chanté. Ça, c'est des moments importants.
Je te regarde, ne crains rien. Je te regarde.
Moi le premier, toi ensuite.
Toi le premier, et moi ensuite.
Ah, ça brûle, Marie, j'ai mal.
Je te regarde et l'éternité aussi te regarde.
Et puis, la fin de Gourou, vous voyez, vous parliez d'un moment optimum, eh bien, ils sont tous morts. Il n'y a plus qu'elle qui a résisté, qui est folle de rage parce qu'elle n'a pas réussi à les sauver. Elle a tout fait pour essayer de les sauver. Hein. Elle est seule au milieu des cadavres. La dernière tenue de contrebasse disparaît. Et à ce moment-là, j'ai écrit dans la partition qu'elle commence à pousser un hurlement. Et l'opéra se termine avec un hurlement. Alors, Sania a fait ça d'une façon incroyable. Et pour être bien certain qu'il n'y ait pas un zozo de metteur en scène qui me trahisse si jamais cet opéra a été joué dans quelques décennies et que je ne sois plus là, j'ai bien précisé que ça fait partie de la partition et que j'interdis toute représentation qui ne mettrait pas le cri à la fin, parce que le cri est de la musique. Et je dois vous dire que quand on l'a enregistré à Budapest, j'avais prévenu l'orchestre, j'ai dit, écoutez, je vous demande vraiment à la fin de rester extrêmement silencieux, parce que... Bon, ils ne savaient pas. Et donc, je termine, on arrive sur les contrebasses, je regarde tout le monde, le truc disparaît, et vraiment sur la fin des contrebasses, alors qu'elles n'ont pas encore arrêté, il y a Sonia qui commence à pousser ce cri. Alors moi, j'avais écrit un hurlement qui s'éteint. Elle a fait au contraire une plainte qui monte. Et elle a ce cri incroyable. Je ne sais pas où elle allait prendre cette respiration. Elle avait travaillé énormément. Même si elle n'est pas chanteuse, elle travaille le chant précisément pour le souffle. Et quand c'est arrêté, je vous assure qu'il y a eu une minute, mais une vraie minute totale de silence dans le studio. Les musiciens, qui sont quand même des gens qui peuvent être un peu blasés, ils en ont entendu. Il y avait le chœur, il y avait les solistes, tout le monde. Puis alors là, après, ils lui ont fait une ovation, évidemment. Mais ça, c'est des souvenirs incroyables. Puis l'opéra, ça, par rapport au concert, ça, cette chose quand même qui est agréable, c'est que vous travaillez pendant 4, 5, 6, 7 semaines. Ensuite, s'il y a quand même au moins 3, 4, 5 représentations, ça s'échelonne sur une semaine, 10 jours. Vous avez quand même une vie en commun de 2 mois qui est quand même quelque chose de tellement important dans des mondes où on est souvent très seul. Oui.
Pour finir, dernière question. Dans un opéra, qu'est-ce que vous voulez donner au public ? D'aujourd'hui.
Bien, je veux le faire voyager. Vous savez, la pire des choses pour moi, c'est de voir une brave dame ou un gentil monsieur qui arrive à la fin d'un concert, il vient de mes œuvres et qui me dit « Ah, c'était très intéressant ». J'ai dit non, ça, vous allez dire ça à mes chers confrères qui sont tellement intellectuels qu'ils ont besoin de 10 paves d'explications pour qu'on écoute un quart d'heure de musique. Moi, je n'explique pas ma musique. Chaque fois qu'on m'a demandé des notes, j'ai dit, si vous pouvez, écoutez-la 2 fois. Donc, je ne parle pas au cerveau des gens, je parle à leur cœur d'abord, à leur trip. Évidemment que le cerveau est important, mais il faut savoir où est le premier objectif. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est, d'ailleurs aussi bien, mon premier public, c'est les musiciens, c'est les chanteurs. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir fait voyager. Ça veut dire que vous êtes rentré, vous étiez à un point A. J'espère que quand vous sortez d'avoir vu cet opéra, vous êtes à un point B ou un point C. Et ça c'est ce qui me fait plaisir. C'est le but. Et c'est de... je n'ai envie d'être au service d'aucune mode. Les épreuves qu'il y a parfois, ce sont celles de la liberté. Il ne faut pas se plaindre. Il y a des paradoxes. On pourrait penser que quelqu'un qui est secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts est dans les petits papiers de tous les opéras, de tout ça, etc. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça peut peut-être même être l'inverse. On vous voit comme quelqu'un d'institutionnel. Une pensée affectueuse pour un crétin dont j'ai oublié le nom, heureusement, de journaliste de France Musique, qui, un jour que je dirigeais à Séoul, un concert, c'était en plus pour le Nouvel An, c'est très gai là-bas, je reçois un coup de fil de mon ami Hugues Gall qui me dit « Ah, figure-toi que tu viens d'être décoré de la Légion d'honneur. » Je dis « Bah, hein, je suis très honoré, ça, j'ai pas honte, hein, c'était très, très agréable. » Et il me dit « Mais je dois te dire que quand ça a été commenté sur France Musique, le journaliste a dit de toi le compositeur officiel du pouvoir. » Et alors là, j'ai dit « Moi, je veux bien être compositeur officiel du pouvoir, mais alors qu'on me joue à Garnier, qu'on me joue à Bastille. » Mais je vous assure que quand j'ai entendu ça et que je me suis vu où toute ma carrière de compositeur se fait à l'étranger, mais voilà. Mais je n'ai aucune amertume. J'ai plus que jamais envie d'écrire de la musique. J'aime mes contemporains, j'adore mon pays, même s'il y a certaines instances qui m'ignorent, mais ce n'est pas grave, j'adore mon pays. Je vis une expérience fantastique à l'Institut de France, avec Xavier Darcos et à l'Académie des Beaux-Arts, où c'est un cénacle, c'est le bonheur d'être entouré par des peintres, des sculpteurs, des architectes, des photographes, des cinéastes, des gens de toutes sortes, qui sont passionnants, et évidemment mes confrères. Et vous voyez, dans notre section de composition musicale, ce qui est formidable, c'est qu'il y a en même temps Bruno Mantovani et Thierry Esquèche, il y a en même temps Edith Canaccisi et Régis Campo, ou bien Gilbert Ami et moi, ou François Bernard Maff, ou on est, ou Michael Lévinas, on est des gens extrêmement différents, d'esthétique très lointaine, mais il y a entre nous d'abord beaucoup de fraternité. Et surtout, deuxièmement, l'exigence d'une chose qui est commune, je crois, à l'Institut de France, c'est ce qui nous intéresse, c'est la qualité, la rigueur, l'élévation d'esprit et l'idée qu'on ne va pas faire des choses plus faciles pour attirer le chaland, on va essayer de monter la connaissance du chaland pour lui permettre de jouir de toutes les formes d'art aujourd'hui.
Eh bien, un grand merci, je crois que c'est ce que vous avez fait aujourd'hui pour nos auditeurs, et nous espérons un jour pouvoir voir et entendre Gourou et pourquoi pas l'apparition. Merci Laurent Petit-Girard.
Merci à vous.
À bientôt.
Thank you.